un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Cette émission vous propose d'assister à la remise du prix Édouard Bonnefous à l'Institut de France. Le prix Édouard Bonnefous a été créé en 1997. Il récompense alternativement un ouvrage qui contribue à alléger le poids de l'État au service des citoyens ou un ouvrage dans le domaine de l'environnement. Le 26 juin 2006, le prix Édouard Bonnefous a été remis à Monsieur François Eckal, magistrat à la Cour des comptes, pour son ouvrage « Maîtriser les finances publiques », un ouvrage paru aux éditions Economica. Vous allez entendre successivement l'allocution d'ouverture de Monsieur Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a rappelé que ce prix a été créé à l'initiative et grâce à la générosité de Monsieur Édouard Bonnefous, ancien ministre d'État, chancelier honoraire de l'Institut de France. Et vous entendrez ensuite l'allocution de Monsieur Raymond Barre, qui a préfacé cet ouvrage et qui a souligné dans son allocution combien la maîtrise des finances publiques était un sujet fondamental et de grande actualité. Je vous les laisse écouter.
Bien, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes ici pour célébrer et attribuer le prix Édouard Bonnefous. Le prix Édouard Bonnefous a été créé en 1997 grâce à la générosité de Monsieur Édouard Bonnefous, ancien ministre d'État et chancelier honoraire de l'Institut de France, que je suis particulièrement heureux de saluer parmi nous aujourd'hui. Ce prix récompense alternativement des œuvres qui auront proposé d'alléger ou contribué à alléger le poids de l'État au service des citoyens et des œuvres consacrées à la défense de l'homme et de l'environnement. Vous voyez donc qu'il y a deux sujets différents. Dans le premier domaine, le prix a déjà récompensé l'économiste Elie Cohen en 1999. Elie Cohen qui est un spécialiste des problèmes de l'industrie. Et ensuite, notre confrère Renaud Denoy de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'État, ainsi qu'Yves Canac, conseiller d'État, il y a 2 ans. La création de ce prix marque le plus souvent la volonté, d'un homme de voir se perpétuer son action. C'est bien le cas, monsieur le chancelier honoraire. Vous avez montré tout au long de votre brillante carrière publique, dont on peut d'ailleurs apercevoir quelques traits dans un magnifique album photographique qui est sorti récemment et dont je vois qu'il fait l'enchantement de nos confrères qui l'ont vu. Donc, votre brillante carrière publique, votre attachement déjà avant les autres à un État modeste dans la ligne d'un libéralisme bien tempéré qui a toujours caractérisé notre Académie et l'Institut de France. Vous avez œuvré efficacement dans ce sens à tous les postes que vous avez occupés, mais en particulier lorsque vous présidiez la Commission des finances du Sénat de 1972 à 1986, à l'époque où M. Barre a été Premier ministre, ou même moi-même, je vous rendais visite à partir du commissariat général du plan, monsieur le chancelier honoraire. Cette vertu, en quelque sorte, romaine qui anime vos conceptions de finances publiques est également ancrée dans les mentalités académiques à qui elle convient parfaitement. C'est dans cette même lignée que se trouve monsieur François Eckal, magistrat de la Cour des comptes, auquel nous remettons aujourd'hui le prix que vous avez fondé. Et quel bonheur supplémentaire, n'est-ce pas pour nous, monsieur le Premier ministre, que vous, qui avez préfacé ce livre, acceptiez, et nul ne pouvait le faire mieux que vous aujourd'hui, de bien vouloir nous le présenter. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci.
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le chancelier honoraire, au moment où je vais remettre le prix Bonnefous à l'auteur d'un ouvrage remarquable qui s'appelle « Maîtriser les finances publiques. Pourquoi, comment ?», je ne saurais oublier, monsieur le chancelier honoraire, le temps où vous présidiez la prestigieuse commission des finances du Sénat et où vous faisiez rayonner la sagesse financière tout autour de vous. Je suis arrivé à ce moment-là, dans des circonstances difficiles. Vous m'avez accueilli avec beaucoup de sympathie. Vous m'avez donné de bons conseils, et de très bons conseils. Je ne voulais pas manquer d'évoquer ce souvenir avant de rendre hommage à M. Eckal, qui reçoit le prix Bonnefous. Mesdames, Messieurs, l'ouvrage de M. Eckal concernant la maîtrise des finances publiques est un ouvrage qui traite d'un sujet fondamental et d'un sujet d'une très grande actualité. Un sujet fondamental, car la maîtrise des finances publiques est un élément essentiel d'une politique économique tendant à la stabilité de l'économie et à sa croissance saine et durable. Cette maîtrise n'est pas une tâche aisée pour un gouvernement, ainsi qu'on peut l'observer maintenant notamment. Elle présente des aspects différents selon les phases de la conjoncture. Elle dépend de l'évolution des dépenses publiques, qui tendent à croître à l'heure actuelle de façon continue, du fait d'une part de la croissance économique, d'autre part, du laxisme des gouvernements face aux multiples demandes des citoyens qui revendiquent de plus en plus. Elle dépend également de l'évolution de la fiscalité qui assure les recettes correspondantes au financement des besoins de l'État, mais qui subit souvent l'influence des idéologies et la plupart du temps l'effet de la tendance constante des citoyens à condamner le caractère insupportable de l'impôt. La politique financière d'un gouvernement consiste donc à naviguer à travers de multiples écueils. Une maîtrise insuffisante des finances publiques se traduit par le déficit du budget de l'État et par le recours à l'endettement. Le déficit peut être conjoncturel et temporaire. Il n'est pas inquiétant. Il peut être facilement résorbé, mais il peut être chronique et considéré comme un instrument normal de politique économique, dont on minimise les risques et dont on souligne les avantages. Il en résulte un endettement durable et croissant qui peut conduire à une charge intolérable pour l'économie nationale et pour les générations futures qui auront à faire face au remboursement de la dette. Le sujet traité par M. Eckal n'est pas seulement un sujet fondamental, c'est un sujet d'une très grande actualité. Depuis quelques années, la situation des finances publiques est préoccupante dans les grands pays développés. Le déficit des États-Unis est abyssal, environ 500 milliards de dollars. Il est vrai que le dynamisme et la flexibilité de l'économie américaine, ainsi que le concours régulier apporté par les capitaux étrangers à la plus grande économie du monde, permettent de tempérer les inquiétudes. La France, l'Allemagne fédérale, l'Italie, connaissent depuis plusieurs années des déficits chroniques et excessifs, notamment par rapport aux engagements que ces pays ont pris en entrant dans la zone euro. Les perspectives d'amélioration sont peu encourageantes. Il ne faut pas se contenter d'incantations pour dire que les choses s'arrangeront. La croissance économique est modeste dans ces grands pays, sauf les États-Unis, le chômage atteint un niveau très élevé et les efforts des gouvernements se heurtent à une opinion publique peu encline à accepter les efforts et les sacrifices nécessaires, sans parler de l'inhibition que constituent souvent les échéances électorales. C'est donc à ce sujet de grande actualité, en même temps que fondamental, que M. François Eckhall apporte une contribution qui est essentielle. Il était qualifié pour apporter cette contribution. Magistrat à la Cour des comptes, il a été responsable d'un service d'études économiques de finances publiques, il a exercé des fonctions de contrôle et il a pu ainsi approcher, combiner les différentes approches qui sont nécessaires pour comprendre ce problème. D'une part, l'approche juridique qui traite des institutions et du droit des finances, l'approche de la gestion et de la comptabilité, et enfin l'approche économique qui permet de comprendre le pourquoi et le comment de la maîtrise des finances publiques. Le livre de M. Eckhall offre donc une vue complète et objective des divers aspects du problème, et il est clair, grâce à sa grande connaissance de la littérature spécialisée et des expériences étrangères, les discussions qui peuvent être soulevées. Je ne présenterai pas dans le détail l'ouvrage de M. Eckhall. Il faut d'ailleurs du temps pour le lire et la plus grande attention. Ce n'est pas le livre léger et banal auquel on peut recourir. Comme il est de règle dans tout ouvrage consacré aux finances publiques, on trouve dans le livre de M. Eckhall une analyse détaillée des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. Dans le cas de la France, les observations présentées confirment un certain nombre de préoccupations et sont d'un grand intérêt. Notons par exemple que le poids des dépenses publiques dans le produit intérieur brut français est à peu près stable depuis 20 ans. Mais les gouvernements successifs n'ont pas été capables de réduire le poids de ces dépenses ni de les redéployer en retenant les dépenses les plus efficaces. La mesure de l'efficacité des dépenses publiques n'est pas suffisamment pratiquée en France. Par ailleurs, les économies qui pourraient être réalisées et qui peuvent être importantes se heurtent à de nombreuses habitudes et les gouvernements ne peuvent dans ce domaine s'avancer qu'à petits pas. Ne constatons pas à l'heure actuelle que les départs à la retraite, qui seront très nombreux dans les prochaines années, ont d'abord suscité un engagement de l'État de ne pas renouveler les postes qui étaient libérés, mais on voit, année après année, un recul dans ce domaine par crainte de l'opposition des syndicats. Et il ne faut pas oublier que ceux-ci ont réussi à obtenir la démission d'un ministre des Finances socialiste, mais qui était réformateur et courageux. En ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales, M. Eckhall montre combien leur baisse est souhaitable, parce que tous les prélèvements obligatoires ont un coût économique. Il ne suffit pas de dire « les impôts sont trop élevés, baissons les impôts ». Les prélèvements obligatoires doivent être analysés en fonction de leur effet sur l'emploi et sur le niveau de vie. Il ne faut pas oublier que dans ce domaine, de très sérieux obstacles sont posés par les perdants potentiels. Les divers prélèvements obligatoires sont par ailleurs assez largement équivalents à long terme au regard de leurs effets sur l'emploi et sur le pouvoir d'achat. M. Eckhall montre clairement qu'il faut en France réduire le taux global des prélèvements obligatoires. Mais l'état des finances publiques ne permet pas de procéder à de telles baisses d'impôts. D'autant plus que si l'on voulait vraiment baisser les impôts, il faudrait en même temps baisser les dépenses publiques. Or, c'est sur le domaine des dépenses publiques que l'on bute. Et si l'on baisse les impôts, on ne peut financer cette baisse que par le recours à l'endettement. La progressivité de l'impôt sur le revenu qui frappe les personnes physiques est très forte et a probablement des effets négatifs sur la formation, sur l'innovation, sur l'esprit d'entreprise et plus généralement sur l'offre de travail. L'auteur montre ensuite, en dehors de toute discussion politique, de tout parti pris politique, que l'impôt de solidarité, l'impôt sur la fortune, n'a strictement aucun intérêt autre que politique. Son taux marginal est confiscatoire. Les mécanismes de plafonnement de la charge fiscale n'empêchent guère une forte évasion. C'est donc une perte de ressources financières nationales qui se trouve enregistrée à la suite de cette migration des capitaux vers l'étranger. Mais je voudrais souligner maintenant ce qui me paraît être la partie centrale de l'ouvrage, qui est constituée par l'étude économique des déficits publics et de l'endettement de l'État. On dit souvent en France que les déficits budgétaires sont nécessaires pour favoriser la croissance et pour résorber le chômage. Cette conception vient de la période 36-39, de la théorie générale de Lord Keynes et d'une conception de dépenses déficitaires qui avait été mise en œuvre par Keynes et recommandée pour lutter contre la Grande Dépression. Entre 36 et 39, cette politique a été appliquée aux États-Unis comme en Grande-Bretagne. Peut-on aujourd'hui l'appliquer en France ou dans les pays européens? On a voulu le faire dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte tout à fait différent de celui de la Grande Dépression. D'ailleurs, une lecture attentive de Keynes montre que Keynes parle de lutter contre une Grande Dépression et non pas contre une récession ou une baisse modeste de l'activité, qu'il entend lutter contre un chômage massif, ce qui, en dépit des chiffres, n'est pas le cas à l'heure actuelle en Europe. Le chômage est regrettable, mais nous verrons qu'on ne peut pas lui donner une importance plus considérable qu'il n'a. Par conséquent, en mettant l'accent sur les déficits budgétaires, on aboutit à des résultats minimes en matière de croissance et d'emploi. On parvient à des résultats graves en matière d'endettement. Je donnerai simplement l'exemple de la France. Accroître le déficit budgétaire va peut-être susciter une intensification de l'activité économique, car c'est vrai que la dépense publique stimule les agents économiques. Mais très souvent, cette stimulation est artificielle. Elle ne résulte pas d'un effort profond des agents économiques. C'est le coup de fouet qui est donné par le déficit. De même que la dévaluation, qui était chère au cœur des Français, donnait un coup de fouet, mais devait être payée immédiatement quelques mois suivants. Donc, il faut que l'on fasse très attention à l'application de ces théories du déficit et du rôle du déficit dans le cas d'économies qui ne sont pas en récession profonde et où le chômage est dû à des causes qui ne sont pas des causes conjoncturelles. Beaucoup de pays européens à l'heure actuelle, et la France en premier, ont un chômage qui a des causes structurelles et qui fait qu'il y a un butoir sur lequel sont limitées les mesures directes ou indirectes que l'on peut prendre sur le chômage. Ceci est évident dans le cas de la France. Nous avons un chômage structurel estimé à 8%. Nous avons un chômage conjoncturel qui peut atteindre 12%. On constate que la marge entre le chômage conjoncturel et le chômage structurel est entre 12% et 8%. Si jamais on veut aller au-delà du chômage structurel de 8%, ce sont des mesures structurelles qui sont nécessaires et elles ne sont pas prises. C'est notamment la remise en question de tous les avantages acquis. C'est l'effort pour convaincre les syndicats qu'ils n'ont pas le droit de faire adopter des mesures qui ne peuvent dépendre que du gouvernement dans le cadre de l'intérêt national. Par conséquent, nous nous trouvons en face d'une situation où on balance entre 8% et 12%. 8% est un chiffre très avantageux. En Allemagne, aux États-Unis, le chômage structurel est 5%. On balance entre ces deux chiffres et vous constatez que lorsque l'on met en œuvre la politique sociale du chômage, le traitement social du chômage, c'est-à-dire la création d'emplois qui sont financés par l'argent public, par le gouvernement, on peut avoir des résultats, mais que ces résultats sont semestriels et qu'ils doivent être renouvelés de période en période. La conclusion de cela est que ce n'est pas une politique budgétaire laxiste qui peut conduire à une amélioration de l'activité économique et une réduction du chômage. C'est même tout le contraire. Et par ailleurs, les théoriciens de l'économie montrent que dans un certain nombre de pays où des réductions massives de la fiscalité et des dépenses publiques ont été réalisées, où des mesures structurelles ont été prises pour lutter contre le chômage, on a des résultats tout à fait remarquables et contraires à ce que l'on dit. Vous voulez être austère ou sévère, vous plongerez le pays dans la ruine. C'est le contraire qui a été observé ailleurs. Et ceci pour une raison très simple. C'est que les agents économiques ont une certaine intelligence. Lorsqu'ils voient les impôts croître, la dette augmenter, le déficit devenir excessif, ils se mettent à épargner de manière à faire face demain aux conséquences des mesures qui sont ainsi intervenues. En revanche, lorsque la mentalité se modifie, lorsque le climat change, à ce moment-là, l'activité des entreprises, l'activité des ménages augmente, car les gens se disent qu'à l'avenir, ils pourront profiter des résultats de l'effort auquel ils se sont adonnés. C'est donc le thème central de la thèse de M. Eckhall. On maîtrise les dépenses publiques, non seulement parce qu'il est nécessaire d'éviter un endettement massif qui pèsera sur le pays et sur les générations futures, mais surtout parce que cette maîtrise crée un climat économique général qui favorise l'activité des entreprises et des particuliers. Monsieur Eckhall nous montre également que la maîtrise des finances publiques ne dépend pas seulement de la politique du budget de l'État, limitant les déficits et les dettes, mais qu'il faut aussi des réformes qui doivent intervenir dans la société et dans l'économie. Il est intéressant de lire les analyses qu'il consacre à ce qu'il appelle les quatre grands chantiers. La réforme de l'État, la décentralisation, la gestion des entreprises publiques, la réforme de la sécurité sociale. En ce qui concerne la réforme de l'État, elle est difficile à réaliser et on peut espérer que la nouvelle loi d'organisation financière qui a été adoptée récemment et qui est appliquée dès cette année permettra de faire apparaître les points sur lesquels une action est possible. En ce qui concerne la décentralisation, il faut veiller à ce que celle-ci ne signifie pas un transfert des charges de l'État sur les unités décentralisées. La décentralisation suppose un effort collectif de l'État et des collectivités locales pour maîtriser les flux de dépenses et de recettes qui doivent intervenir et qui, dans certains cas, doivent donner lieu à une certaine péréquation. En ce qui concerne les entreprises publiques, il y a la privatisation, bien sûr. Mais on a fini rapidement par gaspiller les bijoux de famille. Et quand on privatise, on doit veiller aussi à un point important. Si on accepte qu'un monopole public soit remplacé par un monopole privé, à ce moment-là, les conséquences peuvent être très différentes de celles auxquelles on s'attendait. Et on peut être libéral et reconnaître qu'à ce moment-là, il vaut mieux conserver un monopole public. Enfin, la sécurité sociale, nous vivons avec ce problème, mais la compréhension du problème tient en une idée simple. Et je ne voudrais pas que vous la jugiez simpliste. Nous vivons en France avec une aspiration constante à la gratuité. La gratuité n'existe pas en économie. Toute action économique a un coût, a un prix. On ne peut pas l'ignorer. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons souvent devant la nécessité de renouveler les programmes de réforme de la sécurité sociale parce que l'on ne va pas assez loin dans la répartition entre les Français en fonction de leur niveau de revenu, des dépenses de santé. Il est normal que la solidarité nationale joue dans les cas particulièrement graves et importants, mais nous n'échapperons pas dans les années à venir à reconsidérer cet aspect de la gratuité. Nous ne sommes pas dans une économie d'abondance. L'économie d'abondance, c'est pour l'autre monde. Pour le moment, dans l'économie, nous luttons pour une meilleure répartition des biens rares. Il n'y aurait pas d'économie s'il n'y avait pas des biens rares. Donc, tout ce qui est bien surabondant doit être en réalité traité par des moyens tels que l'argent soit trouvé ailleurs. C'est ce que nous observons tous les jours. Mesdames, messieurs, maîtriser les finances publiques, c'est mener une politique qui doit être continue et globale. Elle suppose, de la part des gouvernements, une volonté sans faille. On peut se demander si, dans les sociétés démocratiques médiatisées, où le déficit du budget a atteint un niveau préoccupant et où l'autorité de l'État a été contestée et s'est même affaiblie, l'assainissement des finances publiques peut être atteint autrement que dans une crise majeure et un effondrement économique et financier qui fasse prendre conscience aux citoyens de la situation exacte dans laquelle ils se trouvent. Je ne le souhaite pas pour ma part. De même que je ne pense pas que l'on puisse d'un coup de baguette magique faire disparaître du jour au lendemain les déficits et l'endettement. En revanche, il convient de se fixer des termes de référence, de prévenir les déséquilibres intolérables et chercher progressivement à retrouver un équilibre, ou pour le dire autrement, un déséquilibre des finances publiques qui ne soit pas insupportable, mais qui soit supportable en relation avec les capacités d'emprunt du pays et, d'autre part, avec les engagements internationaux pris dans le cadre du pacte de stabilité. Ce n'est pas vrai que le pacte de stabilité est contraignant et empêche de mener une politique économique adéquate. On entend ça souvent en France, on l'a entendu en Italie, mais en réalité, le pacte de stabilité laisse une marge de manœuvre de 3% pour le déficit budgétaire, ce qui est déjà quelque chose d'intéressant. De même, le pacte de stabilité n'exclut pas qu'il y ait un endettement qui atteigne 60% du produit intérieur brut. Aller au-delà ne signifie pas du tout qu'on fait preuve de cette façon d'une plus grande habileté économique. On fait preuve, sans aucun doute, d'un laxisme de l'économie. Mesdames, Messieurs, voici ce que je voulais dire du livre de M. Ekal. L'objectif qu'il a proposé étudier est un objectif nécessaire mais difficile. L'essentiel à comprendre est que la maîtrise des finances publiques a pour principal avantage de ne pas rejeter sur l'avenir et sur les générations futures les conséquences d'un refus d'affronter les réalités et une regrettable insouciance des citoyens. Il faut bien sûr, dans les circonstances qui sont aujourd'hui les nôtres, une volonté sans faille de l'État pour assumer ses responsabilités, en dépit des réactions, des corporatismes et des égoïsmes individuels. L'opinion doit être clairement informée des dangers qui sont encourus aujourd'hui ou demain par le pays, des mesures qui s'imposent dans l'intérêt général, même si ces mesures bousculent quelques intérêts individuels. Mais il y a une remarque de François Ekal sur laquelle je voudrais terminer. Il fait observer qu'il n'y a pas un grand intérêt en France pour des débats sérieux sur ce sujet. Et il ajoute que ce qui manque peut-être à notre société, comme on le voit dans d'autres pays, en Allemagne, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, ce qui manque, c'est une certaine culture économique. Je crois que l'intérêt essentiel de l'ouvrage de M. Ekal est de pouvoir contribuer à cette culture économique des citoyens. Merci.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire perpétuel, si vous le permettez, je vais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour reconnaître quelques dettes morales. Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Chancelier, puisque c'est grâce à votre générosité que ce prix existe et que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Je n'aurai pas la prétention, bien entendu, de rajouter quoi que ce soit aux propos qui viennent d'être tenus, mais je voudrais simplement vous exprimer mon admiration très profonde et très sincère devant une vie aussi riche et aussi exemplaire qu'a été la vôtre. Monsieur le Premier ministre, je voudrais aussi vous remercier très profondément, d'abord d'avoir bien voulu faire la préface de cet ouvrage, et ensuite d'en avoir fait une présentation aussi élogieuse. Permettez-moi simplement d'exprimer un sentiment, une opinion tout à fait personnelle. Déjà, lorsque j'étais étudiant, j'étais un très grand admirateur du professeur Barre et du Premier ministre Raymond Barre. En 88, j'ai espéré que vous accédiez aux plus hautes responsabilités de la République et lorsque j'ai glissé mon bulletin dans l'urne, j'étais très très loin d'imaginer qu'un jour, je me retrouverais dans la situation d'entendre des éloges de M. Raymond Barre. C'est donc avec vraiment beaucoup d'émotion que je vous ai écouté. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les Mesdames les académiciens, je voudrais aussi remercier l'Académie des sciences morales et politiques d'avoir choisi mon livre pour recevoir ce prix prestigieux. Parmi les caractéristiques de l'Académie, j'en relèverai une qui correspond plus particulièrement à ce que j'ai cherché à faire à travers ce livre. C'est le caractère interdisciplinaire des sciences morales et politiques qui couvre l'économie, mais aussi le droit, la gestion, l'histoire, la géographie. Comme l'a rappelé Monsieur le Premier ministre, j'ai en effet essayé dans cet ouvrage de traiter les finances publiques, ce que je crois est assez rare, sous un angle pluridisciplinaire, à la fois celui de l'économie, du droit, de la comptabilité et de la gestion publique. Permettez-moi de profiter de cette occasion aussi pour remercier ma famille, ma femme, mes enfants, car écrire un livre, cela prend beaucoup de temps, et c'est un temps que je leur dois, et donc j'espère que je n'en ai pas abusé et que je saurai les en rembourser. Je voudrais aussi remercier Jean Pavlevski, directeur des éditions Economica, puisque c'est lui qui a pris le risque éditorial. Et j'ajouterais que Economica, pour un économiste, est un exemple, car tous les jours, nous apprenons l'annonce de grandes fusions d'entreprises, de concentrations massives, et je trouve tout à fait rassurant de voir que Economica résiste à ces concentrations grâce à son esprit d'innovation, à sa réactivité. Je voudrais enfin citer les deux organisations, les deux institutions, devrais-je dire, dans lesquelles j'ai fait l'essentiel de ma vie professionnelle, que je n'ai pas explicitement cité sur la quatrième de couverture du livre pour des raisons liées au devoir de réserve. Et donc je veux parler d'abord, dans l'ordre chronologique et non protocolaire, de la direction de la prévision du ministère des Finances et de la Cour des comptes. La direction de la prévision n'existe plus, elle a été fusionnée avec la direction du Trésor pour devenir une grande direction générale du Trésor et de la politique économique. Mais c'est là que j'ai appris l'économie appliquée. C'est toujours d'ailleurs une sorte de pont entre deux univers, l'univers des économistes professionnels, universitaires, centres de recherche d'un côté, et l'univers de l'administration opérationnelle et des décideurs de la politique économique de l'autre. C'est aussi un endroit où l'on cultive le sens de la rigueur, de l'analyse économique et le sens de l'intérêt général, qu'on y appelle souvent en termes plus technocratiques la maximisation du surplus collectif, mais en fait c'est quasiment la même chose. Le sens de l'intérêt général et la rigueur de l'analyse, bien sûr, je les ai retrouvés à la Cour des comptes, et je veux saluer ici la présence de son procureur général, de mon actuel président, de mon ancien président de chambre, qui me font l'honneur d'être parmi nous. À la Cour des comptes, j'ai complété ma connaissance des finances publiques en y approfondissant ma formation en droit et surtout en gestion publique, car la Cour est bien entendu un lieu d'observation exceptionnel de l'emploi des fonds publics, plutôt souvent d'ailleurs du mauvais emploi que du bon emploi des fonds publics, malheureusement. La Cour est aussi un lieu qui rassemble des magistrats et des rapporteurs issus d'univers très différents, porteurs de cultures très différentes. Et je pense que cette richesse, cette diversité contribue beaucoup à la sagesse de ses conclusions et de ses recommandations. Je voudrais enfin dire que quelques économistes français, malheureusement, n'ont pas pu venir à cette cérémonie parce qu'il se trouve qu'en ce moment, ils participent à une réunion du Conseil d'analyse économique qui porte sur un sujet tout à fait passionnant qui est les projets de changement d'assiette des cotisations sociales patronales. J'espère qu'ils sauront combattre vivement ce vieux serpent de mer du débat politique et économique français qui illustre notre tentation permanente de dépenser beaucoup d'énergie à la recherche de l'impôt miraculeux ou de l'assiette miraculeuse sur laquelle nous pourrions prélever sans dommage pour l'économie. Je pense que nous devrions dépenser beaucoup plus d'énergie pour atteindre l'objectif que M. le chancelier Bonnefous nous a assigné en créant ce prix, essayer de contribuer à la réduction de la dette publique et des dépenses publiques inutiles. Merci.
Vous venez d'entendre les allocutions de M. Michel Albert, de M. Raymond Barre, la réponse du lauréat François Eckhall, lauréat du prix Bonnefous 2006.